RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans les GG, les grandes gueules, avec une petite nouveauté, puisque la direction a tranché. Elle a jugé, elle a dit vieilli, usé, fatigué. Alain Marchal ne sera plus des nôtres et il passe le relais à Charles Consigny. Donc c'est moi, Charles Consigny, qui anime désormais les grandes gueules.
C'est un coup de tonnerre.
C'est un coup de tonnerre ce matin. C'est comme un coup de tonnerre, comme à ce pauvre Jospin, comme il est arrivé à ce pauvre Jospin. Pour
que
ceux
va
qui
devenir Alain Marchal
cette... Alors Alain Marchal, Alain Marchal l'a bien pris.
On lui a proposé un poste à la mairie de Nice, non ?
Il l'a bien pris. Il s'est jeté du troisième étage ce matin, mais a priori il devrait réchapper de ses blessures et rejoindre Christian Estrosi, avec qui ils ont cofondé un club de pétanque à Nice. Voilà, tout arrive. Moi, j'ai maintenant ici les alertes modération, voilà. Je peux appuyer sur les boutons.
Plaisir.
Et puis,
tu peux bien m'annoncer les grandes gueules ce matin.
Ça suffit,
ouais, parce que RMC.
T'es un peu professionnel dans ta nouvelle
émission. Attention, parce que je vais annoncer les grandes gueules. Ah. Mais je ne vais pas garder toutes les grandes gueules. Voilà, je vais garder les grandes gueules que j'aime bien. Donc, on est ce matin avec Zora Bitton. Bonjour Zora.
Bonjour à tous.
Bon, je garde Zora parce qu'elle est bien coiffée. On est ce matin avec Olivier Truchot. Bonjour.
Merci,
Olivier.
Merci Charles.
Bon, non,
je reste là, je suis le survivant.
Non, tu es sur la sellette parce que tu es susceptible de me faire de l'ombre.
Je vais réfléchir. C'est peut-être la dernière pour
et
moi.
Et on est avec Didier Giraud. Bonjour Didier.
Bonjour Charles, bon, et bonjour Didier. À la France profonde.
Ouais, mais non, toi tu as été trop impertinent pendant toutes ces années, donc tu sautes.
Ah, voilà. D'accord. Attends, non, Alain est là.
Ah, vas-y.
Ah, non. Finalement, il va mieux.
Alain est soigné. Non. Moi, je ne veux pas partir.
Échapper au funeste sort que m'avait promis Charles. Merci Charles, c'était notre petit poisson d'avril. Mais en même temps,
pourquoi
en
pas
même temps, pourquoi pas.
Ça va donner des idées.
Le moment venu, après 21 saisons, si on veut que les GG aient encore un long et bel avenir, peut-être qu'on a trouvé un successeur de là en puissance. Merci Charles, c'est notre poisson d'avril. Les GG sont là, les GG sont présentés, les GG sont avec vous jusqu'à midi. Vous avez le 32-16 pour discuter avec nous. Et on a encore des bons sujets de discussion avec vous. Tiens, autant commencer tout de suite en parlant des carburants et du surplus de recettes fiscales que M. Lecornu va flécher vers l'électrification du pays. Alors, il faut reconnaître que ici dans les GG, régulièrement, on a dit, enfin, ces rentrées fiscales, ça doit bien constituer un petit magot, une petite cagnotte. À chaque fois, tous les élus qu'on a rencontrés, que ce soit aux Grandes Gueules ou à BFM TV, nous ont toujours dit non. Mais non, il y en a pas. Il y a
c'est
pas
extraordinaire.
De surplus. Eh bien, si il y a une cagnotte, pardon, on dit pas cagnotte, on dit surplus.
Alors, c'est extraordinaire. L'aveu de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu avoue enfin qu'il y a bien effectivement des surplus de recettes fiscales, alors que ses porte-paroles disaient l'inverse il y a encore quelques jours, en nous expliquant que la baisse de la consommation faisait que finalement ça compensait peut-être ce surplus de recettes fiscales. Alors il existe. Le problème, c'est que Monsieur Lecornu ne va pas assez loin dans la transparence. Il nous donne pas le montant de ce surplus de recettes fiscales. Ça serait bien de savoir combien effectivement l'État a récupéré depuis le début de cette crise énergétique. En tout cas, Monsieur Lecornu ne nous dit pas on va vous redonner cet argent. Non, il dit ça va servir à électrifier la France, avec pour ambition de faire passer de 60 à 40% d'ici 2030 notre dépendance aux hydrocarbures en électrifiant les transports et également en permettant aux bâtiments d'être équipés de pompes à chaleur. Alors pourquoi pas effectivement, mais tout ça, ce sont des mesures à long terme. Du jour au lendemain, on va pas tous acheter des voitures électriques. Donc en attendant, Monsieur Lecornu nous dit patientez. Et puis pour les prochaines fois, acheter des véhicules électriques. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce qu'on ne nous fout pas finalement notre gueule quand même, hein?
Zora,
si je dois parler un petit peu vulgairement.
C'est terrifiant. D'abord les poches des Français, c'est tout de suite maintenant. C'est pas 2030. 2,50 € le litre, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on fait les poches des Français tous les jours. Depuis un petit moment, on a vu des pompes à 2,50, 2,59, 2,30. Et ça, c'est tout de suite. C'est les travailleurs, c'est les gens qui sont obligés de prendre leur voiture. Et ça, c'est même plus prendre les gens pour des cons, c'est stratosphérique. Il n'y a même plus de honte à prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire que maintenant, on le fait ouvertement. On leur dit, écoutez, on vous ponctionne aujourd'hui, on vous fait les poches aujourd'hui pour éventuellement un projet à 2030 et peut-être qu'ils seront même plus là et que les prochains, on n'en aura rien à faire de ce projet de 2030. Donc on a du mal à trouver les mots de ce mépris et de cette façon de prendre les gens pour des idiots. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui les gens prennent 200-300 euros de carburant, des gens qui travaillent, qui sont commerciaux, qui sont sur les routes, etc. Et l'annonce de Le Cornu, elle rajoute une dose incroyable.
Bah, il est sincère, il avoue qu'il y a bien une recette, il y a des recettes fiscales supplémentaires.
Non mais il avoue, je vous fais les poches aujourd'hui.
Le ministre niait jusqu'à présent.
Non mais non seulement il niait, puis ils ont maintenu qu'ils ne pouvaient rien faire pour le prix de l'essence. Oui. C'est encore pire.
Alors que là ils peuvent, voilà. Puisqu'il y a de l'argent.
Donc ils ont, un, menti, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire sur le tarif du carburant. Deux, ils annoncent que c'est une manne incroyable et que cette manne, ils vont la garder. Ils vont la garder pour 2030, dont on ne sait même pas de quoi il va s'agir. Donc voilà, je
oui, surtout que avoir une stratégie sur l'électrification du pays, tu peux l'avoir.
Non mais 9 ans après.
En dehors de la période actuelle de montée de.
Mais
sauf que là, on dit on va mettre encore plus.
C'est qu'il ment deux fois.
Oui.
Parce que la première fois, il ment en disant qu'il y a.
On peut rien faire.
De surplus de recettes fiscales. Et la deuxième, en te faisant croire qu'ils vont faire un plan d'électrification. Parce que moi, je t'annonce que le surplus de recettes fiscales, il fait poc dans le
mais
fond.
Oui, quoi, mais hein. Oui, mais
il
oui.
fait poc dans le fond du déficit, parce que aujourd'hui, ils sont à la corde. S'ils ont rien annoncé, c'est parce qu'ils avaient pas de marge de manœuvre. Et comme ça fait un mois que l'augmentation a démarré, ils se rendent compte qu'ils rentrent un peu plus de recettes fiscales. Et ils se disent qu'il y a un petit pactole. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur le plan d'électrification? Je te dis rien du tout.
C'est un emballage.
Et là-dessus, j'ai des preuves. J'ai une compagne qui travaille dans le photovoltaïque. J'ai moi-même un projet de développer du photovoltaïque sur mes bâtiments agricoles. Aujourd'hui, il n'y a aucune boîte qui a des perspectives parce que la loi de programmation qui a été décalée sur l'énergie globalement, tous les postes sources sont ras la gueule et ils ont aucune perspective dans le prix de rachat qui fait que tous les projets sont bloqués aujourd'hui, quoi. Donc à un moment donné, dire on va vers l'électrification et on consacre un budget à l'électrification, ce qu'ils ont fait depuis 6 mois, c'est exactement l'inverse. Voilà. Donc ils mentent depuis 10 ans. Éperdument, et ils continuent à mentir aujourd'hui quand ils te disent que le pactole, ils vont le réattribuer là ou là. C'est un vrai mensonge.
Charles Consigne.
Moi, ce que je trouve insensé, c'est à quel point ils ont du mal. L'idée de baisser un impôt en France, c'est un truc qui, on a l'impression qu'on leur demande de se couper un bras, quoi. C'est-à-dire, ils arrivent pas à le faire. Il n'y a pas un sujet sur lequel ils arrivent à baisser un impôt. Parfois, ils en suppriment un, comme a fait Macron avec la taxe d'habitation.
Ils en créent trop.
Pour en fait le regretter, pour etc. Bon. Là, moi, je trouve qu'on aurait quand même aujourd'hui, on a quand même les moyens logistiques de faire une taxe évolutive. C'est quand même un sujet qui est sur la table depuis très longtemps, la fameuse taxe flottante, etc. Bon. On peut faire une taxe évolutive en fonction du cours du pétrole pour s'assurer, pour amortir les effets de la hausse du coût du prix du baril sur l'essence que payent les Français. Je veux dire, c'est quand, je pense quand même que à l'heure où on est en train d'envoyer des navettes spatiales sur Mars, on est quand même capable d'établir un système qui permette de faire évoluer la taxe. Et dans ces cas-là, pour de vrai, l'État ne s'enrichira pas sur le dos des Français. Mais là, je trouve qu'ils ont une démarche assez paresseuse, en fait. C'est-à-dire que ça les gonfle de mettre ça en place. C'est sans doute très compliqué. Et donc, ils préfèrent, ils avouent benoîtement que l'État se fait un peu de rab pendant cette hausse. Et ils nous expliquent qu'ils vont l'investir dans l'électrification. Et là, je suis d'accord avec Didier. Je demande à voir. Donc, franchement, ils voudraient courir le risque d'une révolte dans le pays, je pense qu'il s'y prendrait pas autrement.
Alors, tu vois, ce qui est intéressant ce matin, Emmanuel
Le Chip. Les deux taxes qui existent.
Ouais, voilà, parce que c'est ce qu'a expliqué Emmanuel Le Chip ce matin en détail sur RMC. Ça, c'est
la
intéressant.
TVA, tu as la TVA et tu as l'assise.
Alors, l'assise, c'est l'ancienne TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Alors, l'assise, elle est basée sur les volumes. Donc, celle-là, forcément, elle baisse, puisqu'on vend moins de carburant en ce moment. En revanche, la TVA.
Elle baisse au litre.
En revanche, la TVA, qui est de 20%, s'applique sur le prix total. Elle est identique d'ailleurs pour les deux carburants, aussi bien l'essence que le diesel. Et là, celle-là, elle augmente. Donc, il y aura des recettes de TVA supplémentaires. Et même les chiffres, le Chypre dit que ça sera 1,5 milliard, peut-être 2 milliards. En revanche, l'assise va baisser. Donc, lui, il pense, notre ami le Chypre, il pense qu'il n'y aura pas une énorme cagnotte.
Non, c'est un jeu à somme nulle, quasiment.
Pas complètement. Il y aura quand même quelques dizaines de millions, voire des centaines de millions d'euros, mais pas des milliards. Donc, calmons-nous sur ce surplus de recettes fiscales. Ce n'est pas énorme. Mais alors pourquoi, énorme, ne pas le dire clairement M. Lecornu ne donne pas un chiffre précis? Alors peut-être qu'il n'est pas capable de le faire.
Mais non, mais c'est tout
le Et pourquoi avoir nié pour dire que maintenant il y en a quand même un et qui va servir à électrifier le pays?
Non, mais c'est toute la question de la façon dont on gouverne et la façon dont on s'adresse aux Français et la façon dont on considère les Français.
La façon dont on communique.
Voilà. Mais c'est même au-delà de la communication, parce que la communication, elle va de soi. La façon dont tu gouvernes, la façon dont tu considères le peuple et le respect que tu as pour lui fait que forcément ta communication n'est pas la même. Donc là, on nous embrouille en permanence au lieu de dire les choses clairement. D'abord, ce qui permettrait aux Français d'être respectés déjà, de comprendre, et ensuite de ne pas chacun avoir cette défiance permanente à l'égard de la classe politique. Parce qu'ils ils fabriquent eux-mêmes cette défiance. Au lieu de dire, voilà, finalement le surplus n'est pas si pharaonique que ça, il est beaucoup, beaucoup moins important que ce que vous imaginez. Voilà les chiffres. En plus, il y a un truc qu'on fait jamais dans ce pays, c'est que tout ce qui est budgétaire, on l'explique jamais aux Français. Les Français savent absolument pas comment est découpé le budget, alors que finalement, c'est pas si complexe que ça, et que du point de vue de communication, on peut l'expliquer. Et là, on est typique dans un cas extrêmement simple, qui pourrait être expliqué simplement, où on nous raconte des salades, où les gens vont se dire, oui, il y a des milliards qui vont être générés par l'augmentation du carburant, et là, on nous embrouille en nous disant que c'est pour un projet pour 2030, mais en attendant, moi, mes poches, elles sont faites tout de suite.
Oui, mais, alors,
mais à quel moment
moi, on
mais
Zora, Zora. Zora, que on te l'explique pas, parce que aujourd'hui, on n'assume pas que une partie des recettes du pays est basée sur la fiscalité sur l'automobilisme.
Mais ça, on le sait.
Pourquoi,
ils ont pas besoin de
pourquoi
le dire.
Il y a deux mois, le litre de gasoil qui est chez nous, qui était chez nous il y a deux mois,
1,60.
À 1,60, il était à 1,20 au Luxembourg, 1,40 en Italie, 1,40 en Espagne. Enfin, ça, c'est des choix politiques. Mais parce
des
qu'on
choix
assume.
De fiscalité.
Mais parce qu'on n'a pas assumé ces choix de fiscalité là il y a deux mois, on va pas te les expliquer aujourd'hui.
Enfin, tu fais rentrer du gasoil dans ton exploitation.
Ouais, j'en ai fait rentrer là cette semaine, lundi. Et du coup, le GNR qui était aux alentours de 0,94, il est passé à 1,44.
Oh punaise.
Donc 50 centimes sur un litre de GNR, à l'échelle d'une exploitation moyenne, on est aux alentours de 6,000-7,000 euros, quand dans le même temps notre ami à Bercy nous explique que les agriculteurs sont les mieux lotis parce que ils ont une ristourne de 4 centimes d'euros, tu vois.
Mais c'est pareil pour le fioul domestique,
est,
hein.
Non mais dans les pêcheurs, maisons, les tout le monde est
le
rendu au même prix.
Le fioul domestique, il est passé de 1,10, il est à 1,70.
Le GNR et le fioul domestique, c'est la même chose.
Il faut regarder parce que là ce fameux surplus qui va aider à l'électrification. Je regardais les objectifs du gouvernement pour l'électrification globale. Tu sais combien ça va coûter par an? C'est 50 à 70 milliards.
Oui.
C'est ça. Donc, si tu veux, le surplus,
c'est une goutte
d'essence, si
c'est
tu veux.
Pour
voilà.
Ça, c'est
50 à 70 milliards l'électrification, dont 20 à 30 milliards d'argent public. Donc, on est quand même bien loin, si tu veux, de l'utilisation et de dire, c'est formidable
quand
ce qu'on
l'État,
va générer.
Quand l'État a coupé un peu les vivres sur le renouvelable, ils avaient quand même affiché clairement il y a trois mois que l'État ne pouvait pas tout en matière de
conversion électrique.
Sauf
quoi,
que là,
c'est ça,
Didier,
quoi,
le truc. Le message qui est envoyé, et j'entendais Maud Bréjon ce matin dire, pour les infirmières et les médecins, il y a le leasing social et électrique pour acheter une voiture électrique.
Bien sûr.
Donc, comme le message envoyé, c'est passer tous à l'électrique.
Oui.
Et donc, profitons de cette crise
mais
pour se dire
qu'on
est trop dépendant avec l'hydrocarbure. Non, là, en ce moment, il y a un surplus de.
Si tout le monde passe à l'électrique avec sa bagnole, moi, je t'annonce qu'on va manquer d'électricité.
Aujourd'hui,
hein.
Contrairement à 2022, c'est que les réacteurs
tournent à plein
régime. On ne sait plus quoi faire l'électricité qu'on produit puisque ça ne se stocke pas par définition l'électricité. Donc, le message qui est envoyé, j'écoutais Bréjon a dit, leasing social électrique, faut y aller, les infirmières, les médecins, changer de véhicule. Donc en fait, il faut que les Français prennent conscience que c'est terminé l'essence, le diesel, il faut acheter des véhicules électriques. C'est ça le message qui est envoyé.
Ça se fait pas en une semaine, ça, mon grand. Hein.
Je sais bien, mais c'est le message qui
est envoyé. Les 50 centimes, ça s'est fait en une semaine, par contre.
Et sauf que derrière, tu vas voir.
Oui, mais tu vas tirer les leçons de ce qui va se passer et que quand tu devras changer ta bagnole, tu prendras une électrique.
Non, mais les Français sont dans une réflexion aujourd'hui d'achat.
C'est que 20% pour l'instant.
Oui, mais ça va monter. Ça va. Ouais. Mais bien sûr.
Moi, la dernière fois que j'ai changé de bagnole, j'ai fait le calcul.
Ça coûte très cher quand même. Encore.
C'était quand même avec un vieux gasoil que tu roulais le moins cher. Alors c'est en train de s'inverser.
C'est en train de s'inverser.
Mais notamment avec les taxes.
Mais
le gasoil est plus taxé
si
aujourd'hui.
Je pense qu'il faudrait peut-être refaire le calcul aujourd'hui. C'est pas si clair que ça.
Et puis tu vas avoir de toutes les manières, tu vas avoir un effet d'aubaine aussi pour les constructeurs, et tu vas voir que les prix. Des voitures électriques vont aussi un peu augmenter.
Et puis demain matin, on taxera l'électricité. Hein.
Il va y avoir des délais.
Si tout le parc, automobile est électrique, tu verras
parce que c'est recettes fiscales.
Il faudra bien les récupérer ailleurs. On va pas réformer le train de vie de l'État. Hein.
Alors, il y a Raph qui veut intervenir dans notre discussion. Tiens, Raph, il nous appelle de Saône-et-Loire. Bonjour, Raph.
Et bonjour tout le monde.
Bonjour, Raph. De convoi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Raph?
Ah bah pour les voitures, l'électrique c'est génial. Moi personnellement j'en ai une et je reviendrai pas en arrière. En revanche, nous le convoi que je fais aujourd'hui, là on est à 115 litres au 100. Alors je sais pas ce que ça ferait comme
de gasoil
en camion. De gasoil, ouais. Donc c'est un peu la galère pour nous là, parce qu'on se sert que chez Total. Donc pour trouver des stations, on s'en sort. Mais faut pas oublier, voilà, le transport et puis la circulation sur la voie publique, c'est pas que des camions de fret, c'est pas que des voitures. Nous on a des consommations qui sont phénoménales. En convoi exceptionnel, le camion électrique, je connais une seule boîte en Suisse qu'on a un, et c'est juste pour de la pub. Hein.
Il fait 6 km maxi.
Et combien ça vous coûte en plus, là, aujourd'hui, le gasoil, alors, au total?
Je peux pas vous dire, moi, c'est la carte grand routier Total qui paye.
Non, mais sur une journée, à 115 litres, sur une journée, on est à une consommation de 600-700 litres, quoi.
Nous, par jour, on fait aller 300 km maximum par jour.
Ouais.
Donc voilà.
Mais écoutez, Raph, justement, on va continuer la discussion dans un instant, parce que vous disiez, vous avez la carte grand rouleur de Total. Finalement, celui qui joue le jeu du consommateur, bah, c'est Total. Parce que Total va continuer son opération commerciale. Vous savez, l'opération commerciale, c'est 1,99 le litre d'essence, 2,09 le litre de gazole. Ce qui veut dire que Total est plus fort que l'État. Vous venez en discuter avec nous. Puis il y a un phénomène, là, qui commence à monter. C'est celui des stations qui commencent à être à sec.
Parce que tout le monde va chez Total.
Allez, 32-16 pour en discuter avec les grands gueules. Merci à Raph d'avoir été avec nous. Il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On continue à la radio et à la télé. Et je sais que vous êtes nombreux maintenant à nous suivre sur YouTube. Il y a de plus en plus d'abonnés à la chaîne YouTube des grandes gueules, puisque vous retrouvez les extraits de l'émission sur YouTube. Donc merci de faire vivre l'émission, que ce soit dans les podcasts, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Zor Habitant est là, Charles Consigny, Didier Giraud.
Et en parallèle, on peut aussi retrouver la tribu sur Facebook aussi, Instagram,
oui,
par exemple.
Toutes les discussions aussi.
On a dépassé les 9000 là, on continue. Donc un petit coucou à la tribu parce qu'ils vont m'en vouloir si je leur dis et pas coucou. Non, je plaisante, vraiment.
T'as des ambitions présidentielles?
Mais plus
ça commence comme ça.
Les Zora habitants 2027.
Ça commence comme ça. La tribu.
La tribu Zora, oui, c'est ça.
Continuons.
On pourrait organiser une primaire dans les GG. La primaire des GG.
Ah, moi je veux bien. Prums.
Pas mal, ça
serait marrant. Ouais.
La primaire des GG.
On aime bien, Charles, quand les gens votent pour nous.
Moi, je suis doué. Hein,
elle a déjà eu lieu, c'est moi qui ai gagné.
Non, ben.
C'est
une primaire pour avoir juste une petite étoile.
C'était il y a plus d'un an, Charles. Oui. Sondages d'hier ne valent pas aujourd'hui, mon cher.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Et puis, c'est une primaire de petite étoile. C'est le flocon. C'est le flocon qu'il a eu.
Continuons les discussions à propos du prix de l'essence. On va regarder ce que fait Total. Sachant qu'on a encore une réunion ce matin à l'hôtel de Matignon, tout à l'heure, à 10h30. Oui, Olivier, attention, parce que tu dis oulala.
Ça s'enchaîne.
Il peut sortir...
J'espère qu'il ne dépense pas trop de carburant pour aller à toutes ces réunions.
Il peut sortir des décisions fortes. Dans tous les cas, Total a vu juste. Souvenez-vous, au moment de la guerre en Ukraine, ils avaient capé le prix des carburants. Bon, au départ, ils voulaient desserrer. Finalement, l'opération est maintenue jusque-là... pour encore une semaine.
Oui, il est bon temps de fustiger Total et ses profits. Monsieur Pouyanné, c'est le bouc émissaire d'une partie notamment de la classe politique à gauche. Il faut quand même reconnaître que Total est plus efficace que le gouvernement. Et finalement, Total fait ce que demande la CGT, puisque la CGT demande le blocage des prix. Bah, Total bloque ses prix et a décidé de prolonger ce plafonnement jusqu'au 7 avril, donc au-delà du week-end de Pâques qui va commencer, donc jusqu'à mardi prochain, avec un plafonnement du prix de l'essence à 1,99€. Et un plafonnement du prix du diesel à 2,09€ le litre. Ça veut dire que c'est beaucoup mieux que dans les autres stations-service. Ce qui fait d'ailleurs que les stations Total sont prises d'assaut et qu'il y a malheureusement pas mal de ruptures de stock. Des mesures qui vont s'appliquer quand même dans les 3300 stations Total Energy que compte le territoire métropolitain. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que finalement le gouvernement devrait s'inspirer de ce que fait Total? Parce que là, on voit bien que ça marche et que les automobilistes ont bien compris qu'il fallait faire son plein chez Total en ce moment.
En fait, plus globalement, l'image que j'ai, c'est tu t'attendais à une bombe, tu reçois une grenade. En fait, c'est ça l'idée. C'était 1,60, 1,59, il y a pas longtemps. On est à presque 2,50. Deux, on est content. Donc déjà, là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'à 2 euros le litre, déjà, tu te dis, oh, chouette. Mais compte tenu que tu t'attendais à pire, 2, c'est l'aubaine. Donc je me dis que le problème reste entier, c'est-à-dire qu'à 2 euros le litre, même si Total
là,
fait un effort.
Là, c'est jusqu'au 7 avril. Hein,
voilà, c'est que jusqu'au 7 avril. Le problème, il est pas résolu, c'est-à-dire que les gens qui mettent 2 euros le litre dans leur véhicule pour aller travailler, je vois pas les répercussions sur l'ensemble de la chaîne de la consommation et de l'économie vont être incroyables parce que c'est
comme finalement dans tout ce qu'il y a autour de toi, il y a du transport.
Bah voilà. Donc ça veut dire que forcément il va y avoir de la grosse perte autour.
Mais est-ce que tu dis merci Total?
Mais Total, il est dans une opération de communication de toute façon. En plus, c'est très bien. Ok, c'est que jusqu'au 7 avril. C'est un pansement.
Ça a été prolongé.
Voilà, c'est un petit pansement, mais ça ne change rien.
Didier. Écoute, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on m'explique en économie comment ça c'est possible, quoi. Parce que j'écoutais chez Apolline hier. Le grand chef des Intermarchés qui t'expliquait qu'ils étaient à prix coûtant et ils sont, alors je vais parler de chez moi, mais en moyenne à 2,20 sur un litre de gasoil, quand Total est à 2,09. Donc aujourd'hui.
Ils vendent à perte.
Non mais voilà, ça veut dire que Total, soit ils vont se rattraper bientôt et ils vont monter au-dessus du prix des autres, soit ils ont des modèles économiques qui sont différents, soit il y a des menteurs dans la bande, quoi. Hein. Parce que moi, j'ai quand même du mal à croire que les grandes surfaces travaillent avec zéro marge sur un litre de gasoil ou d'essence. Ça, j'ai quand même du mal à croire.
C'est pour ça que c'est souvent moins cher.
Et du coup... Ouais,
c'est pour ça que quand tu fais le plein chez Leclerc Intermarché, c'est moins cher que si tu vas chez Esso.
Chez Total, il y a 6 mois, ouais, d'accord. Mais aujourd'hui,
en temps
pourquoi
normal,
ça s'inverse? Parce que c'est de la macroéconomie et que ce que Total est en train de perdre là, il va le récupérer ailleurs. Oui. Voilà. Sinon, les grandes surfaces sont des menteurs et ils ne travaillent pas à zéro marge chaque jour. Donc, je pense quand même que autour de ça, il y a toute une filière qui vit, contrairement à ce qu'elle dit. Il y a toute une filière qui vit. Qui se graisse au passage et derrière ça, à la fin du compte, il y aura deux baisers dans l'affaire. C'est les gens qui ne pourront pas répercuter les coûts d'énergie dans leur produit final et les consommateurs.
Ah voilà. Mais
ça sera les deux dindons de la farce.
On a Ali qui est au 32-16. Bonjour Ali, chauffeur poids lourd. Qu'est-ce que vous en dites de la manière dont Total réussit son coup commercial là? Alors dites-moi.
Bah aujourd'hui, vu que c'est le 1er avril, on va tous faire des blagues. Il y a Gamver aussi qui maintient ses prix sur les graines pour les pigeons pour nous nourrir. Parce que Total, ils sont bien mignons. Ils sont producteurs de pétrole, donc ils font un peu comme ils veulent. De là à nous dire qu'ils sont plus forts que le gouvernement, ils sont malins. Dans quelques temps, on va pas les cibler parce qu'il faudra faire les comptes de tout ça. Donc eux ne seront pas ciblés parce qu'ils jouent les bons donateurs, on se croirait dans les visiteurs, j'ai l'impression d'être jacouille. Et aujourd'hui, moi, ça règle pas le problème. À 2,09,
ben voilà. C'est ça, Ali.
On est à 2,09.
C'est ça, Ali.
Je fais 100 km par jour pour aller travailler. Le but d'une vie, c'est d'aller travailler pour gagner son argent. Je suis pas là pour payer pour aller travailler.
Mais c'est ça.
Elle est où l'histoire?
Vous êtes chauffeur poids lourd, Ali?
Ouais, je suis chauffeur poids lourd.
Est-ce qu'on va passer bientôt au poids lourd électrique?
Si ça continue, on va même pédaler dans les camions pour faire avancer les remorques.
Non, mais sérieusement.
On va surtout passer par la phase où les poids lourds, ils vont rester sur les parkings.
Et d'ailleurs, Ali, j'ai remarqué.
Et ça sera les Lituaniens et les Bulgares qui vont faire le boulot.
Ils sont déjà là. Laissez finir Ali. Laissez finir Ali. Allez-y, Ali.
C'est une question que j'ai.
Olivier, c'est impossible. Le parc électrique d'un semi-remorque, éventuellement pour la ville, il n'y a pas de problème. Mais quand vous faites 600, 700 km par jour et que vous êtes chargé à 32 tonnes, comment vous voulez qu'on passe à l'électrique? C'est impossible. Je l'ai déjà eu fait pour des supermarchés où je livrais en électrique et je vous garantis que je ne faisais pas non plus 200 bornes.
J'ai une question, Ali. J'ai une question, Ali. J'ai vu énormément de camions sur les routes secondaires, les nationales, et de moins en moins sur les autoroutes. Est-ce que c'est un effet carburant?
C'est pour éviter le péage, faire des économies là-dessus.
Non, il y a ça. Il y a surtout pour éviter aussi de se faire pomper le gasoil. Parce que plus on est nombreux, moins il y a de chances de se faire pomper le gasoil. Mais aujourd'hui,
pomper le gasoil, ça veut dire qu'il y a du vol.
Sur les parkings d'autoroute, il y a du vol.
Ah bah c'est nous, on est devenus des stations-service ambulantes.
Oui, ça siphonne de plus en plus.
Vous allez sur les aires d'autoroute de nuit, parce qu'en plus moi je roule de nuit. On les voit, les petits malins avec leur petite pompe électrique à venir dévisser les bouchons pour s'en mettre plein les cuves. Mais aujourd'hui, c'est le vrai réel problème, c'est pas que Total soit le bien donateur. C'est 2,09 le litre de gaz.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est vous dites aujourd'hui.
C'est horrible. 2,09.
Vous payez pour travailler.
Mais
quoi.
Oui, c'est la vraie.
Ali, on va écouter Hervé qui est commercial, qui est dans la Sarthe. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Hervé. Juste Total plus efficace que l'État pour le consommateur.
Bah écoutez, apparemment oui. Hein. Ils ont été beaucoup plus réactifs que notre gouvernement là qui vient encore de se réutiliser avec votre sujet précédent. Je pensais pas que c'était possible de faire pire. Mais oui, Total a réagi rapidement et c'est vrai qu'ils font un gros coup de pub. Moi, je le vois. Heureusement que je connais bien mon secteur parce que je fais mon plein en ce moment dans toutes les petites stations de village qui étaient autrefois des petites stations Elan qui font partie du groupe Total auxquelles les gens pensent pas forcément pour faire le plein. Mais dans les grandes agglomérations, je vois moi sur le Mans, la station Total à côté de l'aéroport du Mans, ça est resté plusieurs jours sans carburant. Oui. Et alors que dans les grandes surfaces, effectivement, quand on voit la différence de prix. Alors moi, comme c'est mon employeur qui paye l'essence, c'est vrai que je peux rien faire pour vous. Je peux faire sur ma conduite en essayant d'être le plus économe possible. Mais je pense que ça aussi, ça va avoir une conséquence pour les entreprises.
Parce que votre
plus d'une station sur 10 est en rupture là.
Oui, puis votre employeur, il y a un surcoût carburant pour vous, donc vous allez devoir faire du chiffre en plus, quoi, en plus, Hervé.
Ça va, quand on fait partie d'un grand groupe, ça écrase ce surcoût, mais ce sera quand même un surcoût quand même. Donc, il faut entre guillemets qu'on gère en bon père de famille notre consommation d'essence.
Comment vous faites d'ailleurs? Qu'est-ce que vous privilégiez les clients? Vous faites plus de téléphones que de rencontres? Comment vous faites?
Quand je mes tournées, j'essaye de regrouper mes tournées. C'est-à-dire que si par exemple le matin avant ouverture, j'ai rendez-vous dans un hypermarché, je vais faire après sur le reste de la journée, je vais plutôt essayer de rester autour du magasin où j'étais. Voilà, pour essayer de limiter le coût de carburant à la fin de la journée.
La Commission européenne officiellement a exhorté les gens à travailler à domicile, à conduire à conduire moins, à voler moins aussi, à moins prendre l'avion, et à prendre pour les pays concernés des mesures d'urgence pour développer les énergies renouvelables. Voilà, ça c'est le message officiel de la Commission européenne.
Génial.
Après, démerdez-vous, Charles.
Génial.
Non mais c'est sûr que les infirmières à domicile, par exemple, elles vont faire leur piqûre chez elles. Ça va être utile pour les patients. Tous les gens qui s'occupent des vieux, ils vont s'en occuper en télétravail.
Les travailleurs du bâtiment.
Ça va être hyper utile pour les vieux.
Ouais.
Je crains qu'on ait une Commission européenne et des instances européennes un petit peu endoctrinées. On dit la Commission européenne, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la Commission européenne ? Il y a des jeunes, en général autour de 30 ans, qui sortent d'écoles type Sciences Po ou autres de l'Europe, et qui sont écolo-gauchistes et qui voient le monde à l'aune de leur idéologie, qui voudraient qu'on soit effectivement tous en vélo et en télétravail. Malheureusement, la réalité, elle est un tout petit peu plus complexe que ça. Cependant, vous avez vu que Trump annonçait qu'il se retirait d'Iran d'ici 3 semaines, à peu près. Donc, on peut quand même parier sur
ça chaque semaine.
Ouais. Oui, oui. Moi, je.
C'était 15 jours la semaine dernière.
Ça fait baisser le prix du baril.
Je persiste à penser que ça n'ira pas au-delà du mois de juin.
Hervé, merci d'avoir été avec nous. Hervé, bonne route à vous. Merci de votre témoignage, Hervé, du côté de la Sarthe. On va regarder justement ce que vous en pensez. Est-ce qu'aujourd'hui, le grand gagnant de l'histoire, c'est Total qui est plus efficace que l'État dans son coup de com. Rappelons que jusqu'au 7 avril, les 3300 stations, on reste à 1,99 l'essence, 2,09 le litre de gazole. Bah oui, alors vous mettez oui. Enfin, on avait mis l'intitulé oui, vive Total, non pas plus efficace. Bah, c'est plutôt Total qui est publicité.
C'est une bonne opération de com pour Total.
À 78%. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le on s'en fout, on s'en fout pas. Didier Giraud, l'agriculteur, est là, tout comme l'avocat Charles Consigny. Et Zora Bitton, cadre de la fonction publique, 10h25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est avec vous, c'est au 32-16 que ça se passe. Les grandes gueules qui parleront des arrêts maladie en hausse chez les jeunes et chez les cadres tout à l'heure à 10h. Venez réagir avec nous, bien évidemment, au 32-16. Zora Bitton est là, Didier Giraud aussi, ainsi que Charles Consigny. C'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Bonjour Louis Gerbier.
Et bonjour à tous. 87 126 détenus au 1er mars. Les amis, on s'en fout pas, Zora.
Non, on s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Ah bon ? T'avais l'air d'un homme qui s'en foutait. Didier.
On s'en fout pas.
Plus de 87 000, les amis, c'est donc un record. Ça n'est jamais arrivé en France. Charles, pourquoi tu t'en fous pas ?
Non, bah, moi, je suis pas choqué par principe par le nombre de détenus, vu le nombre d'incivilités, de criminalités, de délinquances qu'on a en France.
Augmente.
Néanmoins, l'expérience que j'ai, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont détenus et qui ne devraient pas l'être. Et donc, je pense qu'il y a un manque de discernement très souvent chez les juges français quant à qui ils incarcèrent. Et notamment, je pense à la détention provisoire qui est joyeusement utilisée par les juges à titre plus du tout exceptionnel, contrairement à ce que prévoient les textes. Aujourd'hui, on a très très vite fait de mettre quelqu'un en détention provisoire sur des critères beaucoup plus légers que pour une peine effectivement exécutée. Ça embolise les prisons et ça fait qu'on n'a plus de place après pour mettre ceux qui effectivement doivent se voir infliger une peine pour avoir commis quelque chose et de manière en étant condamné de façon définitive. Donc il y a un manque de discernement, mais je hurlerai pas non plus en disant.
Ça veut dire surtout que les promesses de construction de places de prison supplémentaires ne sont jamais tenues. À chaque gouvernement, chaque président promet de construire 10 à 15 000, puis finalement on n'y arrive jamais. Il y a toujours une bonne raison d'ailleurs pour pas les faire. Mais et les promesses d'Emmanuel Macron n'ont pas été tenues.
Non, mais les études, les audits et les discussions politiques autour de l'univers carcéral, on en a mais des tonnes. Vraiment, ça manque pas. Il y a plusieurs choses là dedans. C'est que comme dit Charles, il y a des gens qui sont des détenus préventifs et qui ont pas forcément lieu d'être là.
Il y a peut-être des gens aussi dehors qui devraient être en prison.
Voilà, ça exactement. Et donc, il y a aucun travail qui est fait sur la sanction et sa pertinence, son utilité pour contre la délinquance dans la société. C'est-à-dire qu'on y va un peu à l'aveugle. Personne n'a de cahier des charges précis qui dirait là c'est plutôt centre éducatif fermé, là la préventive elle va servir à rien, là il faut plutôt garder de la place pour les viols, crimes, violences, etc. Et en fait c'est un peu le bazar, comme personne gère rien dans ce pays depuis très longtemps et que personne n'étudie de manière très sérieuse toutes les études et tout le travail que des milliers de commissions font depuis des décennies, on arrive encore en 2026 à faire des listes de sujets à chaque fois pour dire il y a un problème. Et en fait, ceux qui nous écoutent disent ouais, il y a un problème, et ils ramènent 10 gars qui comprennent rien au problème, ils font 3 tableaux et ils disent « Monsieur, j'ai la solution ». On l'applique, on l'évalue jamais, et 5 ans après, on vient, on dit « Ah, il y a toujours un problème ». Et en fait, ce pays, il est géré que comme ça. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Les hôpitaux, la santé...
Parce que c'est pas une priorité de construire des places de prison.
Mais rien n'est une priorité.
La santé, ça te fait réélire. Les places de prison, si t'arrives en disant «
Mais si, parce que c'est la délinquance. Mais si,
pas réélu,
mais si, parce que c'est la lutte contre les incivilités, la délinquance. Il n'y a pas de cahier des charges précis. Comment on lutte contre la délinquance? C'est pas en fabriquant plus de prisons. Tu peux fabriquer. Tu peux fabriquer plus de prisons à condition que tu expliques pourquoi tu vas fabriquer des prisons, qui tu vas y mettre, quel est le but de la fabrication de ces prisons. Là, les mecs, ils ont aucune visibilité, rien. C'est juste des mecs en costard à qui on a filé un poste, une paye, et on leur dit, toi, le technicien, faut que tu trouves une solution. Le mec, il vient, il sort ses 3 PowerPoint et son tableau, il dit, Monsieur le ministre, je l'ai. Et l'autre, il l'applique parce qu'il y pige rien. Et on en est toujours à la même solution.
Moi, j'aimerais être derrière
ce chiffre
de 86 000 qui est un record. On me dise combien il y a de places de prison qui vont se construire dans les 5 ans, combien il y a de mecs qui devraient être en prison dans leur pays et pas chez nous, et combien il y a de mecs qui devraient être en hôpital psychiatrique, et combien il y a de mecs qui sont en préventive et qui devraient pas y être. Et s'il y avait ces 5 chiffres-là, j'accepterais peut-être d'analyser l'info qui, aujourd'hui, brute comme ça, ne veut rien dire du tout.
Merci Didier de détruire mon info. Présidentielle, Marine Le Pen, snob Matignon, on s'en fout, on s'en fout pas Charles.
On s'en fout pas.
Didier.
On s'en fout complètement.
Et Zora.
On s'en fout pas.
Eh bien oui, elle l'a affirmé. Si la justice ne confirme son inéligibilité, qu'elle peut pas se présenter au présidentiel, elle affirme ne pas avoir besoin d'un lot de consolation. Le lot de consolation, eh bien, elle parlait de Matignon, Zora.
Non mais... Le carnaval de 2027, il a commencé, il est pas prêt de s'arrêter.
Il fatigue déjà.
Il me fatigue déjà, mais surtout que honnêtement, sur la place politique, c'est pitoyable. Ils sont tous en train d'essayer d'être président. De Marine Tondelier en passant par Jean-Marie Le Pen, le lapsus. Oui, à part Marine Le Pen et Édouard Philippe, David Lisnard, il y a une liste. Mais franchement, ça fait pas kiffer du tout. La bataille, elle vient de commencer. La France, on s'en fout. Les Français, on s'en fout. La situation du quotidien, on s'en fout. Donc Marine Le Pen dit, je ne serai pas ministre. Bah déjà, on sait même pas si tu vas être candidate à la présidentielle et si tu vas pouvoir l'être.
Ça veut dire qu'elle est en train d'acter le fait qu'elle ne sera pas.
Non, mais tout ça, c'est de la posture.
À ces questions, c'est que elle-même se dit qu'elle a quand même très peu de chances de s'en sortir.
Mais c'est de la posture.
Il ferait bien de relire la grenouille.
D'ailleurs,
et
les Français sont en train petit à petit de se dire, ça sera Jordan Bardella sera le candidat du RN.
Non, ce qui est très curieux, c'est de. Moi, je pense que c'est une espèce d'erreur qu'elle fait en disant ça, de présenter ça comme un lot de consolation, comme si l'Élysée c'était un cadeau. Et donc Matignon c'est un cadeau aussi, mais un cadeau un peu moins bien, donc c'est un lot de consolation. Je trouve pas ça raccord avec son discours consistant à dire qu'elle s'engage pour les Français à leur service, etc. Si on a envie vraiment de servir les Français, même si on a rêvé d'être présidente, on peut accepter d'être première ministre. Je vois pas où est le problème, et même d'ailleurs accepter n'importe quel.
D'ailleurs, l'engagement a de la noblesse partout, que tu sois président d'une association. Ou ailleurs.
Mais est-ce qu'on n'a pas tous douté du fait que Marine Le Pen n'a jamais vraiment eu envie d'être présidente?
Oui, exactement.
Pardon.
Exactement. Je pense qu'elle n'a pas le ressort intime sur le sujet.
Je pense qu'elle n'a pas, voilà.
Ouais. C'est
enchaîne. Ça que ça veut dire.
Allez, on va terminer avec une
perfide. Mais ça veut dire que même Première Ministre, elle a peur aussi.
Encore moins. Elle a encore moins envie d'y être.
Oui, mais du coup, c'est moi je trouve que c'est même pas très bon pour son mouvement de dire
non,
si tu veux.
Non.
Parce que tu enlèves de
quelque chose de dédaigneux.
Tu enlèves de la dynamique même pour ton candidat, tu vois, qui est aujourd'hui en tête des sondages, quoi.
Bardella,
c'est possible, tu vois, moi je suis électeur du RN, je vois ça, j'ai pas envie d'aller à Matignon. Ah bon, vous avez envie de quoi?
Rien.
Vous avez envie qu'on gagne ou pas du tout, tu vois,
c'est quand même bizarre.
Jordan Bardella,
on enchaîne.
Alors, on y va cette fois.
Oui, on y va.
Il a dit des sujets énervants.
On n'a plus le temps, par contre.
Perquisition à la mairie de Paris. On s'en fout pas, Zora.
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Et Didier ?
On s'en fout pas.
Alors, elle a lieu dans le cadre d'une enquête ouverte par le PNF, le Parquet National Financier, sur l'attribution d'un marché public sous la mandature d'Anne Hidalgo. Plus précisément, un choix de la direction artistique de la cérémonie de commémoration des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Charles, pourquoi tu t'en fous pas ?
Bah, je remarque surtout que cette perquisition a lieu après la campagne, c'est marrant.
Quand pour c'est Fillon, elle a lieu avant.
Quand c'est la droite, c'est avant.
Pendant.
Et quand c'est la gauche, c'est ou pendant. Et quand c'est la, en tout cas avant l'élection. Et quand c'est la gauche, c'est après. Voilà, je remarque une petite mansuétude du côté de nos amis de la justice, dès lors qu'il est question de gens de gauche, peut-être, par pure hypothèse, est-ce parce qu'ils partagent les mêmes convictions politiques ?
Peut-être qu'il y a 10 jours, ils n'avaient pas assez d'éléments.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Didier.
Non, mais avant de faire le procès de la justice, moi j'aimerais qu'on me dise ce truc-là, là, parce que l'intitulé, c'est quand même quelque chose. Combien ça, alors, combien ça a coûté enfin non, mais j'ai aussi écouté à ce micro Bruno dire que les commémorations du 13 février 2015, c'était tout
13 novembre.
Du 13 novembre.
Je sais pas ce qui s'est passé.
C'est pas
du 13 novembre 2015, c'était tout pourri.
Tant mieux d'ailleurs.
Non, c'était pas tout pourri, c'était au contraire très cher.
Et c'est
pas si vous vous souvenez, hein.
Oui.
D'ailleurs, c'est la même personne qui s'est occupée de la cérémonie d'ouverture. Donc,
voilà.
Et c'était quand même.
De là, croire qu'il y a de la complaisance et de la connivence entre les gens.
Il y avait quand même une mise en scène, la scénographie. Ce qui avait beaucoup déplu à Bruno Poncet, c'est plus les invités. C'est-à-dire qu'il y avait le tout Paris, le tout Paris qui est d'ailleurs à toutes les réceptions qui étaient faites, c'est toujours les mêmes, qui n'a pas beaucoup souvent de rapport avec l'objet de la cérémonie.
Bah,
on parlait des attentats de Paris.
La cour autour
du roi et du roi Macron et de la reine Hidalgo qui était là.
Parce que...
Et tout ça a coûté de l'argent. Est-ce que tout ça se fait effectivement avec les règles d'attribution des marchés ? C'est ce que le parquet essaie de comprendre.
Qu'on me dise combien à la fin.
Ce qui mérite pas du tout d'être commenté, c'est le fait, puisque de toute façon, ce fait-là, il nous est servi régulièrement. C'est la spécialité française.
C'est-à-dire,
une affaire sort, on en parle 2 jours, elle est enterrée, et la vie continue. Elle continue, mais tranquillement, pour la quasi-totalité des auteurs, d'abus de biens sociaux, de conflits d'intérêts, il ne se passe rien. C'est vraiment une spécialité française. Quant à faire des choses somptueuses pour des événements, par exemple, comme le 13 novembre, les Français ne traversent pas la douane mondaine. Voilà, c'est l'entre-soi. On régale l'entre-soi en permanence. Et le parisianisme en est l'illustration parfaite. La discrimination sociale qui fait que dans un événement comme le 13 novembre qui concerne tous les Français, là aussi, la douane mondaine, elle opère. Et elle empêche les gens d'être là. Et voilà, et on met un max de pognon en le détournant pour à chaque fois exclure les Français d'histoires qui les concernent. Et moi, je supporte plus ça. Je supporte plus cet univers parisien et cette espèce de monde d'affaires qui touche les élus partout et qu'on enterre à chaque fois. Et en fait, on en parle aujourd'hui et on l'enterrera comme les milliers d'affaires qu'on enterre. Et ensuite, 2,50 € le litre, fermez-la, Total vous baisse de 40 centimes, c'est heureux. Et puis, Sébastien Lecornu va utiliser votre cagnotte qui vous a fait les poches pour justement vous mettre de l'électricité en 2030. C'est géant, ce pays est génial. Moi, je trouve ça fascinant, c'est extraordinaire. Il faut être à son chevet tous les jours pour en faire des histoires incroyables.
Qu'est-ce que tu prends le matin ?
Je prends rien, c'est ma nature.
C'est pas du ricoré.
Non,
là.
La différence avec toi, Charles, c'est que moi, je suis réellement engagé.
C'est un produit qui est
bam. Il y a un coup de pelle au passage. Allez, dans un instant, Zor Habitant, Charles Consigny.
C'était une belle tirade.
Et Didier Giraud. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est les grandes gueules et la tirade de Zor Habitant qui venait de loin, du fond du cœur. Vous pourrez la retrouver sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Dans un instant, les arrêts maladie qui augmentent chez les cadres et chez les jeunes. Comment on l'explique ? C'est au 32-16 que ça se passe.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.